Et le fait que Simon de Cyrène soit un apax, ça veut dire qu'il y a une manière unique de porter la croix de Jésus. Vous connaissez hein, Simon de Cyrène, ben, vous avez vu au chemin de croix, etc. Bon, celui qui portait, qui aidait à porter la croix du Seigneur, qui était réquisitionné, hein, pour ainsi dire, hein, réquisitionné, pour qui revenait. D'ailleurs, plusieurs, vous le retrouvez dans les synoptiques, hein, dans les trois. Hein, qu'on dit synoptique, tout le monde voit bien ce que c'est. Synoptis, c'est-à-dire qui ont la même vision. Synoptique, les synoptiques qui ont la même vision, et donc les synoptiques, vous avez. Et Marc, Matthieu et Luc. Et vous avez Jean qui, lui, n'est pas dans ce qu'on appelle les synoptiques, qui a une autre vision des choses. Complètement une autre vision, qui est une vision très théologique, qui est une vision, etc. Et de fait, chez Jean, il n'y a pas Simon de Cyrène n'apparaît pas. Cet épisode-là particulier n'apparaît pas. Bon, c'est intéressant. Donc, je trouve il a été réquisitionné. Et moi, je peux peut-être prendre la vision de la version de Marc. En Marc, vous pouvez prendre ça. En Marc. 15 et 15 verset 20, chapitre 15 verset 20. Donc Marc, ils le menèrent dehors afin de le crucifier. Et ils requièrent pour porter sa croix Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Moi, donc le fait que ce soit un apax, c'est intéressant à méditer là-dessus. Et puis, et donc de dire qu'on a une manière unique aussi de porter dans la compassion, une manière unique d'être en compassion. Et là, quelque part, c'est une réquisition. Il requiert, voilà, c'est une réquisition. Il n'y a pas. On parlait ce matin de liberté par rapport à Judas, et certains sont venus me voir après le topo de ce matin, me dit, mais au fond, est-ce que Judas était libre, etc., etc. Bon, est-ce que ce n'était pas une prédestination, puisque Jésus dit, mieux valut pour lui que cet homme ne meure, ne naisse pas, etc., etc. Donc bon, moi, j'en sais rien, moi, je donne ma. Mais bon, a priori, il y avait une connaissance, quand les Écritures sont les Évangiles sont écrites, on sait qu'il a trahi. Donc est-ce que c'est à ce moment-là, du coup, qu'il s'est écrit, mais ça ne veut pas dire qu'il était destiné à trahir, hein, évidemment. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de liberté, parce qu'on le prend, allez, porte la croix, etc. Bon, et il y a plusieurs choses qui me taquinent dans ce passage-là. Premièrement, revenant des champs, c'est-à-dire que c'était un agriculteur. Mais il y a d'autres agriculteurs dans la Bible. Et pas qu'un peu. Je vous invite à prendre Genèse 4. Genèse 4, Caïn et Abel. Et tout le monde y est. Genèse 4. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme auprès du Seigneur. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel devint pasteur de petit bétail, Caïn cultivait le sol. Donc, il y avait le cultivateur et les pasteurs. Le temps passait et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur et qu'Abel. Abel, ça veut dire en hébreu, ça veut dire buée. La buée, vous voyez, la buée qui est sur le carreau quand il fait froid, etc. Sur votre voiture, c'est ça. Abel, ça veut dire buée. C'est intéressant. Bon. Le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, tu ne relèverais-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu le dominer? Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dehors. Et comme ils étaient en pleine campagne, le Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est l'inverse. Pourquoi j'ai fait le rapprochement parce qu'on se dit, tiens, c'est un peu contre-intuitif comme rapprochement entre Simon de Cyrène et Caïn. Simon de Cyrène qui revenait des champs, donc on imagine après une journée de labeur, donc une journée, il a porté le poids du jour et la chaleur du soleil, hein, il dit dans l'Écriture, justement, à propos de ceux que le Seigneur a choisis, les ouvriers de la dernière heure, etc., qui sont payés le même prix que les autres. Mais et alors que Caïn, lui, il va au champ, c'est-à-dire que, peut-être on peut dire comme ça, de dire au fond, chez Simon de Cyrène, il y a déjà, et dans la Bible, le travail est lié au côté pénible, à une pénibilité. Donc il a déjà acquis d'une certaine manière une pénibilité. Il a découvert, voilà, dans la journée, il a porté la chaleur et le poids du jour. Le fait qu'ensuite il soit réquisitionné pour aider le Christ, Caïn, c'est pas pareil. Lui, il ne revient pas des champs, il va au champ. Et donc il va au champ, c'est-à-dire que d'une certaine manière, chez Caïn, il y a une relation de fratrie, etc. On n'accepte pas de porter une difficulté chez Caïn, qui est, entre autres, la difficulté de ne pas voir son sacrifice agréé. Vous voyez, mais ton sacrifice n'est pas agréé. Une sorte de jalousie, une jalousie fraternelle. Une jalousie fraternelle qui le pousse au meurtre. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Caïn et Abel, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, mais ce qui est intéressant, c'est, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de mots. Regardez bien. Au verset 8, donc Genèse 4, verset 8, cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dehors. Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il n'y a pas de mot. Et ça, c'est important. Parce qu'il dit, allons dehors. Oui, ok, pourquoi pas, oui. Et on fait quoi? Et on parle? Ben non. On ne parle pas. Il n'y a pas de parole. Et ce silence, et en hébreu, silence et violence, c'est quelque chose qui est semblable. C'est-à-dire qu'il y a une violence à ne pas avoir de pouvoir échanger avec l'autre. Et je pense que dans ce cas de Simon de Cyrène, il y a une parole, la parole du centurion qui le réquisitionne, mais il n'y a pas de parole entre lui et le Christ. Alors, et je trouve ça intéressant, c'est alors que lui a pu prendre le Seigneur aider à porter la croix, être en contact avec. Mais au fond, il est en contact avec le Verbe. Il est en contact avec le Verbe. C'est intéressant, c'est que par la croix, Simon de Cyrène n'a pas besoin de prononcer une parole, puisqu'il est face à la parole en tant que telle. Alors que Caïn, et donc c'est une compassion. Alors que Caïn, face à Abel, il n'y a pas de parole et c'est un meurtre. Donc, c'est intéressant bon, je ne sais pas si ça méditer un peu là-dessus, de dire au fond, entre Caïn et Simon de Cyrène, les deux étaient agriculteurs. Les deux étaient agriculteurs. L'un allait au champ, Caïn, Simon de Cyrène en revenait. Mais dans un cas, dans Simon de Cyrène, il y a eu un contact par le fait de porter la croix de Jésus physiquement, d'un contact avec le Verbe de Dieu. Et donc, qui est la parole en tant que telle. Et donc, il y a une compassion. Alors que chez Abel, que chez Caïn, il n'y a pas de parole et pas de compassion et il y a un meurtre. Je ne sais pas si c'est clair, c'est bon pour vous, c'est de voir un peu, bon. Bon, c'est un peu rabbinique, c'est-à-dire coupé, tiré par les cheveux, capillotracté, quoi. C'est-à-dire que bon. Mais bon, du coup, mais bon, vous en faites ce que vous voulez, mais bon, c'est intéressant parce que vous n'auriez pas fait le rapprochement. Oui ou non? Ben voilà. C'est pour ça, sert à ça de faire à quoi sert une retraite, c'est faire des rapprochements qu'on n'aurait pas fait le rapprochement. Donc voilà. Ben, et donc voilà. Alors que les deux étaient cultivateurs et agriculteurs, les deux. Bon, voilà. Et n'oubliez pas, c'est intéressant dans les conséquences du péché originel. Le travail n'a pas été maudit, mais qu'est-ce qui a été maudit? C'est le sol. Le sol a été maudit. Hein, c'est intéressant, c'est le sol a été maudit comme conséquence du péché originel. Vous verrez ça et tu tireras le fruit de ton travail à la sueur de ton front. C'est le sol qui a été maudit. Hein, voilà, et ça, c'est, je pense que. Donc, ça, c'est intéressant de dire au fond. C'est-à-dire qu'il a été maudit, il y a quelque chose qui n'est pas d'une simplicité, d'une facilité. Ils ont un métier difficile. Ça reste encore un métier difficile, le métier de cher métier d'agriculteur. Hein, voilà, donc voilà, je trouve ça intéressant de méditer. Les deux étaient agriculteurs. L'un a pris la peine, il revient des champs. Hein, donc il sait ce que c'est peiner. Il sait ce que c'est que. Voilà. Et puis un autre point, moi qui m'a flashé parce qu'il y a des trucs qui me flashent, si vous voulez, de temps en temps. Et il y a un truc qui m'a flashé, ces rameaux-là, et qui est que dans Marc, et sur lequel j'aimerais parler avec vous, méditer avec vous. Il requiert, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et il n'y a que dans Marc que c'est marqué. Et pour moi, ça a été quelque chose de, je me suis dit, tiens, waouh. En fait, moi, c'est l'expérience aussi de la croix dans les familles. Et souvent, être père, c'est pas accepter de porter. Est-ce qu'au fond, être père, c'est pas être porté, non seulement porté sur les fonts baptismaux quand on a été baptisé petit, mais d'être porté, transporté dans ce monde, d'être porté. Voilà. Et je trouve que le fait qu'on souligne qu'il soit père, c'est pas du tout anodin. Parce que dans la Passion, en fait, il n'y a pas 40 pères, quoi. Il y a lui, il y a qui d'autre? Il y a Eloi, il y a le Père des cieux. Donc il y a que, au fond, comme Père, et puis même dans Saint Jean, comme expression familiale, il y a, dans la Passion, vous avez Marie et Jésus, voici ton fils, voici ta mère, etc. Mais il n'y a pas d'expression familiale, il n'y a pas de rapport avec le Père. Bon, on voit bien. Par rapport à bon, Jésus dans sa passion, etc., dans son agonie, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, etc. C'est ce qu'on a lu hier, mais que ta volonté soit faite. Et je trouve, au fond, le fait d'être Père, c'est vraiment, et je crois que c'est faire mémoire aussi de nos familles. Nos familles sont parfois en contact avec la passion du Seigneur. Moi, j'ai vu ça comme ça. Nos familles sont. Touche la croix de Jésus à travers Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et le fait d'être père, c'est, au fond, c'est de dire qu'il y a peut-être quelque chose à porter d'une pénibilité dans nos histoires familiales. D'une pénibilité, parce que, voilà, c'est pour X raisons, mais. Pas parce que, il n'y a pas si longtemps que ça. Ben là, j'étais à Paris cette semaine, etc. Et voilà, je prépare beaucoup au mariage. Moi, je suis beaucoup versé dans ces trucs-là. Bon. Et du coup, je parlais avec un couple, je faisais la connaissance, et puis elle me disait, bon, mon père sera pas à mon mariage. Parce qu'à un moment donné, il l'avait menacé avec un fusil de chasse, évidemment, qui ne détend pas les relations. C'est moi qu'on puisse dire. Et donc, et je lui ai dit, ma chère, mais du coup, j'ai dit deux choses. Premièrement, qui te conduira à l'autel? Alors, et puis deuxièmement, quels sont les figures masculines positives qui se sont construites. Parce qu'on peut parfois avoir une relation complexe avec son père. Ça peut être une vraie croix. Cette paternité, alors rien n'est dit de la paternité de notre ami Simon de Cyrène. Hein. Simon et Simon, ça veut dire celui qui écoute. Hein. Shlomo, hein, c'est en hébreu. C'est, voilà, c'est ça Simon. Hein, donc, et Simon, il y en a, c'est pas un apax. Simon, c'est pas un apax. Il y a plein d'états de Simon dans la Sainte Bible. Mais rien n'est dit justement de sa paternité, de l'exercice. Mais quelque part, l'exercice de sa paternité a à voir aussi avec une certaine pénibilité et ça, la fécondité de sa vie. À voir avec porter la croix de Jésus. Voilà, je trouve ça intéressant de dire au fond, être père, c'est porter l'autre au monde, mettre au monde. Le père met au monde aussi, pas évidemment comme la maman, etc., mais il a une manière de mettre au monde. Et je trouve ça intéressant que vous fassiez mémoire de vos chers, nous fassions mémoire de nos chers papas. Quelles que soient les relations que nous entretenons avec lui, qu'il soit de ce monde ou pas de ce monde, parce que certains, moi mon père est décédé, mais je n'ai pas connu mon père. Je n'ai pas connu mon père parce que, non parce que je ne sache pas qui il est, etc., j'ai tout à fait identifié, ça c'est pas la question, mais officier de marine, tué pendant la guerre d'Algérie, j'ai 21 ans et demi. Mais je vois, il y a des hommes clairement qui m'ont construit dans ma masculinité, dans mon humanité. Qui ont été aussi pères. C'est intéressant de voir que quand, moi j'ai pas mal étudié, je me suis formé comme thérapeute de couple, etc. Toutes les sciences humaines, c'est vraiment absolument passionnant, et entre autres, voilà, quel est le rôle de la paternité, de la maternité. Mais au fond, la paternité, c'est un rôle symbolique. Symbolique, je ne veux pas dire que c'est petit comme rôle, c'est de l'ordre du symbole, de la représentation. Ce qui fait que, par exemple, et ça a été mon cas, quelqu'un qui n'a pas connu son père biologique, j'ai un père biologique, je porte son nom, j'ai pas, c'est pas la question de gens qui n'ont pas, savent pas d'où viennent leurs pères, etc. Bon, papa outé et compagnie, donc c'est pas ça, mais c'est de dire, tiens, au fond, on peut prendre la place d'eux, il y a une paternité aussi de Simon de Cyrène dans le fait de prendre la croix de Jésus. Aussi, il y a cette paternité-là. Alors il était probablement, bon, on n'en sait rien, mais peut-être plus âgé que Jésus, certainement, je pense. Bon, on va penser qu'il est plus âgé. Comme rien n'est dit, tout est possible. Non, mais l'inverse n'est pas dit. Donc du coup, ça n'a rien contre la foi et les mœurs. Donc du coup, vous pouvez penser qu'il était plus âgé. Donc et donc il y a aussi une paternité envers le Christ, il a exercé une forme de paternité. Et si on dit il était père de Rufus et d'Alexandre, c'était pas des bambins. A priori, c'était pas des bambins. C'était ou des adolescents ou des hommes adultes, etc. C'était quelqu'un, voilà, donc qui était agriculteur, qui revenait revenant des champs, etc. Qui travaillait donc et qui a conduit Jésus jusqu'au bout. Je trouve ça intéressant de voir dans la paternité, il y a aussi un jusqu'au bout. Ouais, ils amenèrent le Jésus, le lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Voilà, c'est dans la fécondité de nos vies, il y a le fait d'aller jusqu'au bout. C'est marrant parce que notre fondateur, le Père Lamy, insiste beaucoup là-dessus, d'aller jusqu'au bout, le jusqu'au bout. Et je trouve que chez Simon de Cyrène, en tout cas, il va jusqu'au qu'on crucifie le vous savez, hein, on portait le patibulum, c'est-à-dire et ensuite il y avait des poteaux comme ça. Et ensuite, on mettait sur le poteau, mais en fait, il ne portait pas la croix comme on l'avait au chemin de croix, etc. Ça, c'est pas du tout dans la Bible, etc. Bon, c'est pas grave. Si vous avez fait vos dévotions, c'est parfait. Mais c'est pas comme ça. C'était le patibulum. C'est pas une petite baguette. Je veux dire, c'est une poutre énorme, etc. Bon, que tu montes, ensuite c'est comme ça. Bon, bref. Donc, il a aidé à porter ça. Donc, et c'est intéressant, le film de la Passion, on le voit à côté de Jésus, qui porte, parce que c'est ça. C'est pas qu'il porte la croix par derrière, c'est qu'il porte à côté. Il porte à côté, donc c'est-à-dire il y a la barre de bois qui traverse les deux dos, j'allais dire, il est côte à côte avec Jésus. C'est intéressant ça de voir. Donc c'est de voir au fond sa paternité, c'est d'aller jusqu'au bout aussi. Et je veux dire, la fécondité de nos vies, c'est aussi ça. Et peut-être, je trouve ça important aussi de faire mémoire. Et c'est pas parce qu'on est une jeune femme, etc., ou une femme, que le rôle du père n'est pas important. Je crois que c'est très important. Quel est le premier regard d'homme, mesdames, mesdemoiselles, que vous avez rencontré dans votre vie? C'est le regard de votre père. C'est le premier. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, je ne connais pas vos histoires personnelles. Là, dans le cas où je vous parle, c'était compliqué parce que voilà. Mais c'est le regard du père, c'est dans le regard du père que la petite fille se découvre femme. Au fond, c'est ça, c'est dans le regard du père. Je trouve ça intéressant, d'où l'importance aussi de cette paternité. Il prend la place d'eux, quelque part, c'est ça, c'est le côté symbolique. Quand on dit symbolique, c'est rendre présent, symbolos, vous savez, en grec, c'est le mettre c'est avec, de mettre en, c'est mettre ensemble, mettre avec, c'est ça que symbolique, c'était, on montrait une pièce d'argile, je me rappelle plus comment c'était le truc, et du coup, c'était un symbole, et on se reconnaissait, elle était cassée, on la mettait ensemble, et ça faisait un peu comme un peu, je disais, ok, t'es la bonne personne. C'est pour ça que c'était un symbole. Donc la personne qui venait avec l'autre partie de la pièce, on les mettait ensemble, ok, du coup, tu es la bonne personne que je dois rencontrer. Hein, et donc, du coup, c'est intéressant de voir que chez Simone Sirène, il y a cette paternité avec Alexandre et Rufus, et du coup, et cette paternité, quelque part, il est aussi là pour, comme expression de la paternité céleste. Représentation, rendre présent. Et c'est intéressant de voir que le rôle, que moi j'ai beaucoup travaillé, le rôle du père dans la famille, etc. Je trouve vachement important. Bon, voilà, je crois que c'est bien aussi, par les temps qui courent, de valoriser et de voir que beaucoup, c'est aussi comment l'épouse, c'est elle qui rend le père présent. C'est intéressant, là. Je suis en train d'écrire un bouquin sur vie pro, vie de couple. Les maris qui sont absents pour X raisons, par exemple les militaires, par exemple, un certain nombre de personnes qui... du coup, l'importance du rôle de l'épouse qui rend présent le père, comme l'Église, a cette vocation de rendre présent. De rendre présent l'amour du père, comme épouse. Oui, le père, c'est celui qui donne confiance. Là, encore une fois, cette semaine, j'ai rencontré un autre couple quand j'étais à Paris. Et voilà, ils sont un peu ils se marient en juillet, ils sont un peu en galère, etc. Bon, et il dit, mon père m'a explosé toute ma vie, quoi. J'étais un nul, j'étais machin, etc. Garçon, et du coup, forcément, ça monte en température avec sa fiancée, etc. Bon, alors que le rôle du père, c'est donner confiance. Rendre présent dans ce sens-là, c'est donner confiance. C'est porter une parole. C'est porter une parole. Porter une parole, selon tout le monde y est. Et je pense que c'est important de... Je parlais au garçon, je lui dis, écoute, mais c'est, bon, en tout cas, je suis assez convaincu de ça, que les garçons, c'est les leaders spirituels de leur couple et de leur famille. Oui. Donc ça, pour moi, ça c'est vachement important. Ils portent une parole. Ils portent la parole. Ils portent la parole divine comme... quelle est la première parole qu'Adam a écoutée? La parole de Dieu. C'est-à-dire que le fait que l'homme soit aussi porteur de cette parole de Dieu, exprime la parole de Dieu. Vous savez, dans la tradition juive, chez les juifs orthodoxes, les femmes travaillent, les hommes, eux, méditent sur la parole de Dieu, sur la Torah. Ils ne font que méditer. ils écrivent, ils méditent, etc. Parce que, bon, alors c'est la vision un peu jusqu'au boutisme du judaïsme. Il y a beaucoup de formes de judaïsme, mais bon, chez les formes les ultra-orthodoxes, par exemple, orthodoxes, et surtout ultra-orthodoxes, si vous êtes allé à Jérusalem, au quartier Mea Shearim, par exemple, au quartier Mea Shearim, ben, vous voyez que des orthodoxes avec leurs papillotes, etc. Bon, là, mais ils méditent la parole jour et nuit. Vraiment, c'est la parole de Dieu. Et pendant ce temps-là, les femmes bossent et leur amènent les fric pour pouvoir que eux méditent la parole de Dieu. Bon, bon mais c'est non, mais ça, c'est intéressant. Bon, mais voilà, ils portent la parole. Et je crois que c'est important, messieurs, que vous soyez convaincus que vous êtes appelés à être leader spirituel. Simon de Cyrène, c'est un leader spirituel, à sa façon, dans sa paternité. Vous voyez, je pense qu'on peut. La preuve, 2000 ans après, on en parle encore. Comme père d'Alexandre et de Rufus. Et le fait d'être côte à côte avec Jésus, pendant le patibulum, justement, la pièce de bois immense, là, côte à côte avec le Christ, voilà, le fait, et voilà, il a été, et bien, se porter avec, fait partie aussi de la paternité, de soutenir, d'encourager, de donner confiance, de sécuriser. Et la grande difficulté dans les familles où il y a des pères absents ou des pères fragiles ou des pères qui sont pas au rendez-vous, quoi, la difficulté, c'est qu'un des enfants, pour sécuriser la mère, prenne la place d'eux. Alors là, Rufus et Alexandre, on dit les pères de Rufus, mais il prend pas la place de ce père, de cet homme-là, voilà, qui va jusqu'au bout, hein, de la compassion, jusqu'au bout de porter avec une parole, jusqu'au bout de sa paternité, de sa fécondité. Et évidemment, dans le sacerdoce, il y a porté une parole. Il y a porté avec. Et peut-être ça peut être, selon vos histoires personnelles, mais de revisiter le lien avec votre cher père, alors qu'il soit de ce monde ou s'il n'est plus de ce monde, voilà, d'en faire mémoire et de le confier au Seigneur, de prier pour les défunts, bon, peut-être d'avoir un pardon, je ne sais pas, le lien que vous avez eu avec votre papa, etc. Mais s'il est de ce monde, je pense que c'est beau de pouvoir revisiter le lien avec le père, de voir que c'est vrai que dans. Le fait que la croix du Jésus par Simon de Cyrène soit plantée dans la famille, ça nous rappelle qu'il y a aussi une forme de pénibilité dans les relations familiales. Dans la communion, il y a une pénibilité. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ, hein, Galate, vous connaissez bien. Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez la loi du Christ. On n'apprend pas à devenir père ou mère, je veux dire, bon, la maternité est plus ancrée, j'allais dire, dans la nature, bon, et ça veut pas dire que c'est plus simple, la maternité, forcément pas, mais bon, mais la paternité, je trouve ça intéressant, parce que c'est vraiment, il y a quelque chose de l'apprentissage et du courage et de la. Du fait de mettre au monde dont on ne parle pas assez. Et j'encourage beaucoup dans les couples que j'accompagne que les garçons sortent du bois et deviennent leaders spirituels. Moi, je vois, ensemble avec leur future épouse, etc. Mais souvent, on voit, ils ne sont pas au rendez-vous, quoi. Ben ça, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Qui est un problème par rapport à la transmission de notre foi. Vous voyez, dans le judaïsme, moi, je l'ai dit, je travaille le judaïsme, etc. Quelque part, la religion catholique est une religion très féminine. Alors, Les gens vous diraient, les féministes vous me font des bons comme ça, mais non, le patriarcat, etc. Bon. Et, heureusement que la Bible n'est pas en écriture inclusive. Mais voilà, en fait, c'est une religion, c'est assez féminine. Par exemple, dans le judaïsme, il faut, bon, la formule, je veux dire, plus classique, qui est le cas du consistoire hein, israélite, hein, le consistoire donc, est la représentation religieuse du judaïsme en France. Pour commencer une prière, une célébration, il faut être 10 hommes. Si vous n'avez pas 10 hommes, vous ne pouvez pas commencer une prière. Le mimian, il faut avoir... Voilà. Bon, mais je trouve ça, parce que du coup, c'est vraiment... On pousse les hommes aussi à porter cette parole-là, bon, avec l'étude de la Torah, etc. Donc, mais c'est intéressant de... Alors que je trouve que souvent, les hommes, je veux dire, c'est beaucoup les femmes qui, elles, sont là, et c'est bien qu'elles soient là pour témoigner de la parole de Dieu. Je recevais une grand-mère, et elle, dans mon accompagnement avait depuis longtemps, etc., et dans sa petite fille faisait sa confirmation. Et chacun, les jeunes, de dire pourquoi. Et elle a dit, parce que ma grand-mère, c'est elle qui m'a donné la joie de croire en Jésus, c'est grâce à elle que je crois en Jésus. Mais c'est parfait, très bien. Alléluia, non, pas alléluia parce que j'en ai machin. Mais bon, mais en fait, mais je trouve que c'est important que les grands-pères soient au rendez-vous. C'est-à-dire quand ils sont de ce monde, voilà, que les grands-pères soient là aussi, que les hommes soient là, que vous messieurs vous puissiez prendre vraiment votre part dans l'annonce de l'Évangile et au sein de la famille, hein, au sein de la famille. Et de porter quelque chose à porter dans la famille. Comme Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Il y a quelque chose, il y a une pénibilité, il y a être au rendez-vous aussi de ça. Et à porter la croix avec l'autre. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez beau à méditer. Bon, vous continuerez après, vous pouvez méditer là-dessus sur la question de la paternité, la question de. Et de la croix et de voilà qui rend le Père présent la croix aussi hein, donc Dieu de qui vient toute paternité hein, fait toute fécondité il y a évidemment il y a quelque chose à porter c'est de ça que vient au fond la fécondité de notre ami Simon de Cyrène c'est qu'il porte avec et dans vos vies aussi il y a des choses à porter peut-être dans vos familles aussi bon. C'est pas opposé à la fécondité de vos vies. C'est le lieu de la fécondité de vos vies même. Maintenant, un petit personnage, oui, je sais pas si c'est un petit personnage, Barabbas. Et Barabbas, je vois, en fait, il est dans les 4 évangiles. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait, donc on est en Marc 15. Pilate leur répondit, voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ? Crucifie-le. Et ensuite, Pilate, alors voulant contenter la foule, donc on est au verset 15, chapitre 15, verset 15, voulant contenter la foule, le relâcha Barabbas. Après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Ça, vous avez en Marc. Puis pareil en Matthieu. Vous avez en Matthieu, pareil, le fait du cher Barabbas. Ils dirent, Barabbas, Pilate, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Il leur dit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ? Il leur dit, qu'il soit crucifié, etc. Crucifie-le. C'est toujours voilà, impressionnant quand on lit dans la liturgie, parce qu'il faut y aller. Crucifie-le, ce n'est pas un petit crucifix, il faut y aller, quoi. Il faut envoyer là. Donc, et pareil pour crucifie-le, etc. Dans Jean, il y a aussi Barabbas. Ils vociférèrent de nouveau, disant, pas lui, mais Barabbas, en 18:40. Dans Jean, en 18:40, et dans Luc, c'est dans les 4 évangiles, c'est marrant, hein, il y a peu de choses qui sont dans les 4 évangiles. Donc, et dans Luc, c'est pareil, et Pilate prononça, qu'il fut fait droit à leur demande, il relâcha celui qu'il avait jeté en prison pour sédition et meurtre. Quant à Jésus, il le livra à leur bon plaisir. Et Barabbas, je vous le donne en mille, ça veut dire Bar-Abba, fils du Père. Pas mal. Non, mais c'est pas mal de dire fils du Père. En fait, le premier sauvé, c'est un bandit. C'est Jésus, fils du Père, évidemment, qui sauve en nous le fils du Père, ou la fille du Père, c'est pareil, le fils, mais voilà, l'enfant du Père qui le sauve, hein, et qui s'offre en lieu et place. Bar Abba, hein, comme Bartimée, le fils de Timée, etc. Mais donc, et au fond, il y a quelque chose de prophétique là, dans le fait que les Juifs qui étaient là devant Pilate vocifèrent crucifie-le, Barabbas, non pas Jésus, mais Barabbas, etc. etc. C'est-à-dire, il y a quelque chose de prophétique de vouloir, au fond, délivrer dans notre humanité cet enfant du Père que nous sommes tous. Même si ce n'est pas dit dans l'écriture, mais dans le film La Passion, il y a un moment donné, il y a un Barabbas, qui est vraiment une sale gueule, quoi. Vraiment, ils ont fait une très grosse sale gueule, c'est normal, c'est le film. Barabbas qui croise le regard de Jésus. Hein. Jésus crucifié avec des goulillons de sang, etc., flagellé. Parce qu'il était... bon, et je trouve ça très, ce moment très. C'est grâce à lui qu'il est libre. Fait qu'il n'est pas condamné à mort. Parce qu'il aurait dû être condamné à mort. C'est grâce à lui qu'il a la vie, qu'il est vivant, le cher Barabbas. Grâce à Jésus qui lui donne la vie, en s'offrant lui-même. Non pas pour, et c'est là où on voit le côté de la grâce, non pas pour ses mérites à lui, l'ami Barabbas, c'est vraiment un sale type, quoi. Ça, je vous déconseille de le fréquenter. Bon, je vous dirai depuis, il est 6 pieds sous terre, bon, il est bon, mais on n'entend plus parler. Mais c'est un sale type, c'est le Barabbas. Et Jésus n'a pas regardé à ça. Il n'a pas, même face à Pilate, on voit dans Jean, et tu te tais, etc. Il n'a pas argumenté pour sa défense. Il a laissé que s'accomplissent les Écritures. Et je trouve ça bien, vous sera proposé là dans la retraite de vous confesser, si ce n'est déjà fait, peut-être d'autres certains sont confessés dans vos paroisses, etc. Ou voilà, de venir confier au Seigneur la partie de notre personnalité peu fréquentable. Même si je vois vos bonnes têtes, je me dis, vous n'avez pas beaucoup de Barabbas dans le secteur. Mais bon, et parfois on a une bonne tête, mais bon, il faut quand même, il y a des choses à travailler, quoi. Et c'est ça, c'est dans la confession, on vient confier au Seigneur ce qui n'est pas. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, vous connaissez la formule, etc. Parce que j'ai péché, pas parce que je suis un type bien. Voilà, donc... je trouve ça beau de voir que Barabbas, en fait, le fils du Père, est délivré par l'offrande du Christ. Et on voit Marie, hein, même si je ne vais pas parler de la Vierge Marie de façon particulière, elle est évidemment présente dans ce chemin de croix. Ça. Et on voit Marie qui est là, hein, dans ce chemin de croix, et qui voit cet homme-là libéré en échange de Jésus, de son fils, on l'imagine. Voilà, c'est l'émotion de la Vierge Marie de dire, voilà, comment elle est amenée, elle aussi, à une autre maternité. Voici ta mère, voici ton fils. Hein, avec Jean, là, pour le coup, uniquement dans Saint Jean. C'est une autre maternité. Et elle est amenée à exercer sa maternité avec le cher Barabbas. On imagine peut-être, est-ce que Barabbas avec sa maman était là? On n'en sait rien, mais en fait, on va dire que oui. Tiens. On va dire que quand on ne te dit pas le contraire, il faut y aller, il faut envoyer. Toi. Tu t'envoies et tu dis, en fait, il est probable que le cher Barabbas, sa maman ou sa famille était là. Oh, imaginons. Ben, c'est pas complètement délirant, voilà, de penser que... Voilà, et on imagine la joie de sa mère, etc. Bon, voilà. Et on imagine Marie à côté. Je vous ça, il y a quelque chose aussi des rapports familiaux qui sont... parce qu'il y a, Simon de Cyrène avec père d'Alexandre et Rufus, mais il y a l'autre rapport familial, c'est Marie, évidemment. Marie et Jean et Marie et Jean. Du coup, il y a... Les rapports familiaux avec la passion du Christ sont modifiés, sont revisités, sont transfigurés. Je ne veux pas dire qu'ils sont simplifiés. Dans nos familles, voilà, ça peut rester compliqué. Il y a des choses compliquées. Hein. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Et quand on dit tendre l'autre joue, et souvent on l'interprète mal. Vous vous rappelez ce passage-là, de tendre l'autre joue, etc. Aimez vos ennemis, voilà, priez pour ceux qui vous persécutent, voilà. Et si on vous frappe sur la joue droite, tendez aussi l'autre, la joue gauche. Mais tendre l'autre joue, en fait, c'est montrer un autre visage. Parce que quand on frappe là, ben, tu tends la joue. Tu regardes différemment. Tu as un autre regard. C'est pas bah, faites-moi mal, on n'est pas dans le masochisme, évidemment. Quand Jésus dit ça, allez-y, encore la flagellation. Non, c'est tendre l'autre joue, c'est un autre regard sur le mal. Petite histoire, bon, le 7 octobre, c'était extrêmement dramatique en Israël, avec ce carnage, il n'y a même pas de mots, voilà, impossible. Et il y a une femme, je sais pas comment les appeler, si c'est les djihadistes ou quoi qu'est-ce, bon, voilà. Sont rentrés chez elle et elle les a accueillis. Mais écoutez, messieurs, bon, avec évidemment force armée jusqu'aux dents, etc. Et elle les a accueillis comme si c'était ses enfants. Ah ben moi, bonjour, asseyez-vous. Tiens, j'étais en train de préparer une tarte aux pommes ou quoi qu'est-ce, etc. Ils ont été sciés, ils savaient pas quoi faire. Et finalement, elle a eu la vie sauve parce qu'elle a joué le jeu, entre guillemets, le jeu d'être celle qui, voire elle a soigné un des types qui avait été blessé par l'assaut, etc. Elle l'a soigné, mais voilà. Et du coup, elle avait des grenades dans chaque autour du cou attachées comme ça pour pas qu'elle s'échappe. Bon, bref, c'était quand même pendant 6 heures, donc c'était quand même assez tendu, j'imagine. Mais en fait, elle a montré un autre regard. Comme si c'était, ça aurait pu être leur mère tranquillement. Avoir un autre regard sur la passion dans nos familles.